Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 21h en temps universel et à Kai chez Siku Six. Et à Abidjan également, chez Ado le Pharaon. 22h à Kinshasa et à Garges-lès-Gonesse en France. Et le journal est présenté par Martin Guez. Attention Martin, j'ai un hypnotiseur là dans le studio. Attention, j'ai
la chance que vous avez. Bah alors vous nous hypnotisez, mais c'est pas du jeu ce soir, Claudie. On est un peu dégoûté avec Claude Battista. On attendait que ça.
Ben oui, désolé.
On attendra jusqu'à vendredi. J'ai cru comprendre. Merci beaucoup Claudie. Et bonne soirée à vous. Mais pour l'heure, c'est l'heure du journal sur RFI. À la une. Vers un arrêt des combats au Liban, le Conseil de sécurité israélien qui doit se réunir demain soir. Au plus tard, Emmanuel Macron et Joe Biden qui espèrent pouvoir annoncer un cessez-le-feu dès demain entre le Liban et Israël. En Roumanie, Calin Georgescu, candidat pro-russe, a terminé en tête du premier tour de la présidentielle. Présidentielle également en Uruguay, remportée par le candidat de gauche, Chamandou Orsi. En cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, courblant sur l'Afghanistan, où 80% des jeunes filles en âge d'aller à l'école sont privées d'éducation. Enfin, restez bien avec nous, vous retrouverez Hugo Moissonnier et Radio Foot International à la fin de ce journal. Au Proche-Orient, vers un arrêt des combats au Liban. Ce soir, Paris et Washington disent espérer un accord dans les 36 heures à venir. L'Elysée fait état d'avancées significatives. Et ce, après 60 jours de guerre, un cessez-le-feu qui serait toutefois progressif. Correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
Un accord en trois phases. La première, un arrêt des combats et le redéploiement du Hezbollah en dehors du Liban Sud. Dans un second temps, ce sont les troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais. Finalement, plus tard, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre les deux pays. Au cours des dernières heures, des solutions ont, semble-t-il, été trouvées aux deux points de litige qui bloquaient la négociation. La revendication israélienne de pouvoir intervenir militairement au Liban en cas de violation de l'accord et l'autre problème lié, celui-là, au rôle de la France dans le cadre du comité de surveillance de l'accord. Israël demandait à minimiser ce rôle en raison de la position de la France sur les questions d'armement et aussi à la suite de l'émission des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant par la Cour de l'Haye. Et en attendant, sur le terrain, les deux parties tentent d'améliorer leur position avant la mise en place d'un cessez-le-feu, notamment avec des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et aussi des tirs de roquettes sur Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le Liban, la trêve n'a pas encore lieu puisque toujours aujourd'hui, 31 personnes ont été tuées ce lundi, notamment lors d'une frappe israélienne près de la ville de Tyr, dans le sud du pays. Aux États-Unis, à présent, l'équipe de Donald Trump salue une victoire majeure, une victoire judiciaire, alors que le procureur spécial a recommandé l'arrêt des poursuites contre le futur chef d'État. Donald Trump visé pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020 lorsqu'il avait été battu par Joe Biden. Un arrêt des poursuites au motif qu'il est désormais le président élu du pays. Le procureur spécial qui renonce également à poursuivre Donald Trump pour rétention de documents classifiés. L'actualité en Europe, à présent, et en Roumanie. D'abord, on vous le disait en titre, le Premier ministre Marcel Ciolacu qui accepte sa défaite, favori des sondages. Il n'est arrivé qu'en troisième position lors du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue ce dimanche. Marcel Ciolacu qui a échoué à quelques centaines de voix de la centriste Elena Lasconi. Et c'est le candidat pro-russe Calin Georgescu qui est lui arrivé en tête avec plus de 22% des suffrages. Théo Renaudon, le candidat a séduit en faisant campagne sur son opposition à tout soutien à l'Ukraine dans la guerre face à la Russie.
Il s'appelle Calin Georgescu, il a 62 ans, grand opposant à l'OTAN, candidat anti-élite, il a donc fait toute sa campagne sur l'idée de stopper tout soutien à Kiev. Et pour porter son discours, il a misé sur TikTok, vidéo devenue virale, qui semble avoir conquis une large part de l'électorat roumain jugé volatile. Écoutez cette vidéo qui a fait 4,2 millions de vues, sachant que la population roumaine, c'est 19 millions de personnes.
Quand je parle, c'est pour la Roumanie, pas pour l'Ukraine. Ni mes partisans, ni le peuple roumain ne sont intéressés par Poutine ou par l'Ukraine. Ce qui les intéresse, c'est la Roumanie. Que nous vivions bien, que nous ayons une bonne qualité de vie. On insiste beaucoup sur la guerre en Ukraine, qui ne nous concerne pas.
Deuxième tour, le 8 décembre, Calin Georgescu affronte une femme, Elena Lakosny, maire de centre-droit d'une petite ville. Un scrutin qui sera très observé avec celui des législatives dimanche 1er décembre. Roumanie, pays stratégique, 650 km de frontière avec l'Ukraine, 5000 soldats de l'OTAN y sont positionnés. Jusqu'ici, le pays avait résisté à la vague nationaliste pro-russe qui submerge sa voisine, la Hongrie.
Théo Renaudon du service international de RFI. Et autre élection présidentielle, désormais en Uruguay cette fois-ci. Et c'est le candidat de gauche qui a remporté le suffrage ce dimanche dans ce petit état d'Amérique du Sud. C'est un ancien professeur d'histoire, Chamandou Orsi, qui l'a donc emporté, s'imposant contre son adversaire de centre-droit, Alvaro Delgado. Chamandou Orsi, qui l'a emporté avec le soutien d'un poids lourd de la vie politique uruguayenne, Christophe Paget.
Chamandou Orsi a bénéficié du soutien appuyé de son mentor, l'ancien président et ex-guérillero, José Pepe Mujica, qui, malgré son grand âge et sa santé fragile, a multiplié les meetings pour attirer le vote des jeunes et des indécis. Avec l'arrivée au pouvoir de celui qui était jusqu'ici le maire de la ville de Canelones, dans l'aire urbaine de la capitale Montevideo, c'est la gauche qui reprend les rênes du pays après 5 années de gouvernement de centre-droit. La gauche modérée. Chamandou Orsi assure que sa victoire augure d'un changement qui ne sera pas radical. D'ailleurs, pendant la campagne, les programmes de Chamandou Orsi et de son adversaire, Alvaro Delgado, se rejoignaient sur plusieurs points. Relance de la croissance, réduction du déficit budgétaire, lutte contre la criminalité liée au narcotrafic, qui est en augmentation en Uruguay, jusqu'ici considéré comme un havre de paix en Amérique latine. Cette convergence devrait faciliter le dialogue nécessaire entre le pouvoir et l'opposition. Nécessaire car la gauche n'a pas décroché la majorité absolue au Parlement lors des législatives fin octobre. Chamandou Orsi a déjà promis d'être un président qui appelle au dialogue, en suivant notre vision, mais aussi en écoutant très attentivement ce que les autres nous disent.
Christophe Paget sur RFI.
RFI, Radio France Internationale.
RFI 2h06 à Islamabad, au Pakistan. La trêve entre les musulmans sunnites et chiites dans le nord-ouest du pays n'a pas été respectée. Les affrontements ont repris ce lundi, des violences qui ont fait 82 morts depuis jeudi dernier. Washington qui appelle ce soir au calme. Et puis en Afghanistan, quel espoir reste-t-il pour les jeunes afghanes en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes? Le pays s'illustre tristement comme l'un des régimes les plus répressifs au monde. Privé de nombreux droits fondamentaux comme celui d'aller à l'école, c'est en effet interdit au-delà de l'âge de 12 ans. 80% des jeunes filles en âge d'aller à l'école en sont privées et les perspectives ne sont guère réjouissantes, estime Shakipa Dawood, artiste engagée politiquement pour les droits des femmes afghanes et présidente de l'association Le Cercle Persan.
C'est une situation de détresse où on n'arrive pas à se projeter. J'ai parlé avec des gens qui sont là-bas. En fait, on nous dit de ne pas communiquer sur leur état psychologique pour pouvoir en fait encourager les gens sur le fait que les femmes afghanes continuent à se battre. Il y a ça, il y a une réalité que les femmes afghanes continuent à se battre et elles ne baissent pas le bras, mais en même temps, psychologiquement, elles sont complètement détruites parce que il n'y a pas de perspective. Comment faire des études, obtenir même un diplôme et ne pas travailler dans un pays où on est complètement effacé de l'espace public? On peut pas non plus faire sortir toutes les femmes afghanes qui vivent en Afghanistan. Elles sont obligés d'imaginer que leur vie dans l'avenir est condamnée à être une femme au foyer et être au service de l'homme. C'est tout.
Shakipa Dawood qui répondait à Anne Cantner à la mi-journée sur RFI. On termine ce journal en France où l'opération sauvetage d'Atos se poursuit. L'ex-le fleuron de l'informatique française qui est en grande difficulté financière, son cours en bourse a perdu 90% de sa valeur depuis le début de l'année. Et pour éviter que les activités les plus sensibles d'Atos ne finissent entre des mains étrangères, l'État français cherche à les racheter. Nathanaël Vitran, la France est aujourd'hui prête à nationaliser les supercalculateurs d'Atos.
Oui, les deux parties ont annoncé être entrées en négociation exclusive pour l'acquisition de la division Advanced Computing d'Atos, c'est-à-dire celle qui concerne ces supercalculateurs. On parle ici d'ordinateurs géants aux capacités de calcul hors normes, une technologie avancée utilisée pour le développement de l'intelligence artificielle, les prévisions météorologiques, mais qui sert aussi pour crypter les communications de l'armée française, et notamment pour tout ce qui concerne la dissuasion nucléaire. Autant dire une activité stratégique. En juin, l'État français avait fait une première offre sur un périmètre plus large, regroupant toutes les activités sensibles d'Atos, pour lesquelles elle est en contrat avec l'armée française, mais les deux ne sont pas tombés d'accord sur le prix, et l'offre a expiré début octobre. Celle-ci est plus resserrée, elle ne concerne plus que les supercalculateurs. L'État propose entre 500 et 625 millions d'euros, dont 150 millions versés dès la signature qui pourrait avoir lieu avant Noël. La division Advanced Computing représente 2500 salariés, principalement en France.
Et c'est avec les supercalculateurs d'Atos avec Nathanaël Vitran que se termine ce journal. Moi, je vous laisse avec Hugo Moissonnier et Radio Foot International. Excellente soirée à tous à l'écoute des RFI.